أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. Alors j'avais annoncé comme thème de ce cours ce que dit l'islam sur la résurrection des âmes. Alors bien sûr, on va détailler, hein, j'ai dit âme, mais ce n'est pas forcément les âmes seulement, on va en parler tout à l'heure. Mais avant d'aborder le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, nous allons d'abord aborder la question de la nécessité de croire en ce qui va se passer, parce que c'est extrêmement important. Allah Azza wa Jal nous incite dans le Coran même à réfléchir, à essayer de comprendre le sens de tout ce qu'il dit, hein, et pas seulement de prendre ça comme argent comptant, d'y croire bêtement, hein, je dirais. Et on sait à quel point la vie après la mort, l'au-delà, est un pan important, non seulement de la religion islam en tant que dernière révélation, non, mais de toutes les religions. Ce qui se passe actuellement, c'est que toutes les religions ont perdu l'essentiel des informations concernant ce sujet-là. Il ne reste plus que l'islam à apporter l'éclaircissement que recherche toute personne qui se questionne sincèrement. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la semaine islamo-chrétienne qui s'est déroulée donc la semaine dernière, et puis bon, ça a commencé le vendredi d'avant. Le sujet était l'au-delà, justement. Et alors, à l'issue de chaque conférence, de chaque rencontre, la remarque était toujours la même. Pourquoi l'islam a-t-il tant de choses à dire? C'est-à-dire qu'une heure, ça ne suffisait même pas pour tout expliquer. Hein, et ceux qui connaissent le chapitre, ceux qui connaissent le sujet, savent pourquoi. Donc par rapport à ce qui est dit dans les autres religions, finalement, il ne reste plus que l'éclaircissement musulman sur le sujet en question. La foi, donc, en la vie après la mort, est une obligation. N'est pas musulman qui ne croit pas en cela. C'est le cinquième article de la foi. Les piliers de la foi, nous les avons vus l'an dernier en détail, l'un après l'autre, et il ne reste plus que ce point à traiter. Mais ce point, justement, donne tout son sens à chacun des points que nous avons abordés. C'est-à-dire que nous avons vu des informations éparses, hein, mais ce qui donne du ciment à toutes ces informations, ce qui constitue un tissu solide, un scénario consistant, c'est la vie après la mort et pas autre chose. Alors, il faut méditer le sens de la vie après la mort pour... Justement, le fait de méditer la mort, déjà, donne un fouet à la foi. Mais le fait de méditer le sens de la vie après la mort donne, en fait, une motivation supplémentaire. Parce que l'homme est ainsi, quand il comprend les choses, quand il comprend leur utilité, la motivation coule de source. Mais quand on lui dit, maintenant, il faut que tu fasses ça, mais... il n'y aura aucune conséquence. Pourquoi voulez-vous qu'il se fatigue à faire la chose en question? Donc, en somme, enfin, pour résumer, pour parler de ce sujet en diagonale, on dira que l'islam et les religions dites monothéistes croient en la résurrection. C'est-à-dire que les morts ne vont pas rester endormis, ils vont se réveiller par la grâce de Dieu, mais ils vont se réveiller pour passer devant un jugement, devant le tribunal divin, et suite à cela, deux issues se présenteront heureuses et une issue malheureuse. Le titre de croyant dans le Coran, il est décerné à ceux qui croient en deux choses. Allah et le jour dernier. C'est-à-dire que globalement, pour être croyant, il faut croire en les deux extrémités de ces piliers que nous avons énoncés et travaillés ensemble l'an dernier. Le premier était croire en Dieu. Le dernier, c'était croire en une vie après la mort et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, croire à ce premier pilier et à ce dernier pilier constitue l'essentiel de la foi. L'essentiel de la foi. Alladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Et ceci n'est pas réservé donc aux musulmans en tant que nation adepte de Mohammed alayhi salatu wassalam. Non, tous les messagers ont mis l'accent sur ces deux points. Alors celui qui ne croit pas en Dieu, bien sûr comme il se doit, et qui ne croit pas qu'il y a quelque chose après la mort, une vie après la mort, est incroyant au sens de la théologie musulmane. C'est un péché de kofr, un péché que Dieu ne pardonne pas. Oui, Dieu est intransigeant sur le plan de la foi. Il est miséricorde, ça ne l'empêche pas d'être tout miséricorde et d'envoyer des signaux d'alarme à tout homme, qu'il soit sur la bonne voie ou qu'il soit le plus égaré parmi les êtres humains. Il envoie des signaux à tout le monde, parce qu'il aime tout le monde. Il en est qui ont les cœurs endurcis, il en est qui sont, comme il le décrit dans le Coran, sourds, aveugles et muets à ces signaux d'alarme, et par conséquent, ils restent dans l'égarement, et finalement, ils se perdent eux-mêmes. Alors la vie ultime, l'akhira, c'est ainsi qu'en parle le Coran, elle est mise en opposition avec ad-dunya, c'est-à-dire la vie d'en bas, la vie d'en bas, mais la vie la moins importante. On parle d'une dernière vie et d'une vie. Alors comment traduire dunya? Parce que dunya veut dire deux choses. Ça veut dire moindre en importance. Quand on dit quelque chose est dani, c'est-à-dire qu'il est, c'est un epsilon, c'est une broutille. Et oui, la vie que nous traversons en ce moment est une broutille à côté de la vie qui nous attend. Si tout le monde pouvait le comprendre, si tout le monde pouvait l'entendre ainsi, beaucoup de choses en seraient changées. Donc, ad-dunya et al-akhira, la dernière, l'éternelle, la vraie vie en somme. Cette akhira donne son sens à cette dunya que nous traversons en ce moment. Je m'explique. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Il l'a énoncé, premier chapitre du Coran, réitéré par la suite à plusieurs endroits. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les humains et les démons et les djinns, donc ce monde invisible que nous ne voyons pas, que pour qu'ils... Alors je n'aime pas traduire يَعْبُدُونَ par m'adore, parce que c'est une mauvaise traduction. Que veut dire l'ibada? L'ibada, c'est le service de Dieu. Que veut dire un abd? Un abd veut dire un serviteur. Donc, il n'a créé les créatures dont je viens de parler que pour qu'ils soient au service de Dieu. Car son dessein en créant l'homme, c'est de lui confier une amana, une responsabilité. Être le vicaire de Dieu sur terre. Être le représentant de Dieu sur terre. Vivre sur la terre comme Dieu voudrait qu'il vive. Adopter l'optique divine dans ses faits, ses gestes, ses actes, ses pensées, ses relations. Voilà ce que veut dire être le vicaire de Dieu sur terre. Et voilà ce que veut dire assurer l'amana, la responsabilité. La responsabilité que Dieu a voulu confier à l'homme et qui a fait qu'il l'a créé. Alors cette amana, elle a été proposée aux cieux, aux montagnes, mais ils ont refusé. Et l'homme l'a accepté, cette responsabilité de représenter Dieu sur la terre. Mais comme il était bien naïf, effectivement, il ne se doutait peut-être pas que c'était une si lourde lourde responsabilité. Alors, pourquoi, quand Dieu confie une responsabilité à quelqu'un, il attend de lui un résultat. Et ce résultat va être jugé, évalué. Voici une partie, une facette du sens du jugement après la mort. Donc s'il n'y avait pas de vie après la mort, ça, le sens de notre existence aujourd'hui n'existerait pas. Pourquoi est-ce qu'on serait là? Pourquoi est-ce que Dieu nous aurait fait? Nous sommes là donc pour subir l'épreuve du service de Dieu, de l'ibada. Donc notre vie terrestre, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un examen sur copie des œuvres qui va être noté, qui va être évalué par Dieu, et ceci aura des conséquences, comme il le dit dans ce verset, « Man amila salihan falinafsi », celui qui fait un bien, c'est pour lui qu'il le fait. « Wa man asa'a fa'alayha », et celui qui fait un mal, ben c'est contre lui qu'il fait du mal. Il se perd lui-même. « Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid », car ton Dieu n'est pas injuste envers ceux qui le servent. C'est dans Sourate Fussilat, Sourate 41, verset 46. Alors, la vie après la mort donne tout son sens à Dieu et à la religion. Je m'explique. Dieu nous aime. Il aime tous les hommes. Et il veut voir tous les hommes récompensés par leur retour à leur terre natale qui est le paradis. Pour cela, il les guide sur la terre en leur envoyant des messagers qui leur enseignent eh bien, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour rester dans le droit chemin qui mène à ce paradis. Et il balise ce chemin qu'il appelle Sirat al-Mustaqim, la voie droite, il balise ce chemin par des frontières, hein, des parapets. Vous savez, comme on est, comme quand on est sur la route et que il y a un précipice à droite ou à gauche, il y a un parapet qui nous empêche, qui nous protège de l'accident, de la chute dans le précipice. Ainsi sont hududullah, les limites de Dieu, la haie prohibitive de Dieu, l'enclos de sécurité qu'il a voulu mettre autour des êtres humains. Mais combien ne voient pas ce parapet? Mais oui, ils sont sourds. Mais oui, ils sont aveugles. Voilà. Pourtant, il est bien là, le parapet. À nous de nous en saisir. Mais il y en a qui refusent de se saisir de ce parapet. Donc, les messagers, il les a envoyés non seulement avec un message de sa part, mais avec l'ordre d'être les premiers à assumer ce message de façon à montrer un exemple vivant à l'humanité. C'est pour ça que Mohammed disait « Et je suis le premier des soumis. Je ne suis pas de ceux qui vous disent « faites » alors que je ne fais pas. Je suis le premier de ceux qui me soumettent à la volonté d'Allah Azza wa Jal. » Donc, les messagers sont des hommes, mais ils ne sont pas infaillibles. Ce sont les meilleurs des hommes. Et leur vie représente pour nous la notice explicative du message, la notice concrète du message. Alors je reviens au sens de la vie après la mort. Quel sens aurait tout cela? Qu'est-ce que c'est que ce simulacre imaginé par Dieu s'il n'y avait pas une attente de sa part, que l'on reste dans ses frontières, dans ses limites, sur cette route balisée, qu'on prenne exemple sur les messagers. Quel sens est-ce que la religion aurait si obéir ou ne pas obéir aux messages et aux messagers n'avait pas de conséquences? Dieu a besoin dans son jugement de témoins. Enfin, il n'en a pas besoin. C'est lui, par souci de clarté, de transparence, qui appelle à témoin les anges, les messagers, tout, la terre, on le verra peut-être tout à l'heure si on a le temps. Donc le jugement donne un sens aux anges qui nous entourent et que nous ne voyons pas. Le croyant croit sans voir. Il croit en un Dieu qu'il ne voit pas, il croit en l'existence d'anges qu'il ne voit pas, mais il croit parce que ça colle. Le scénario a un sens. Oui, les anges sont là pour nous protéger, pour nous guider, pour faire des prières pour nous et pour inscrire nos actes. Ils sont témoins, ils seront nos témoins pour ou contre nous le jour où Dieu nous appellera pour le jugement. Alors, Dieu a créé l'homme faible. Il a créé le diable pour le tenter. L'examen divin, l'examen sur copie que nous sommes tous en train de passer aujourd'hui ne doit pas être facile. Il faut quelque chose pour départager les hommes. Voilà, les tentations, les épreuves de la vie. Donc, ces difficultés, ces bâtons dans les roues doivent exister pour voir, qui est celui qui aura 20, qui est celui qui aura 15, qui est ce... Je schématise, mais tout ça prend un sens. Les anges prennent un sens. Le diable prend un sens. Les épreuves prennent un sens. Et c'est merveilleux de donner un sens à l'épreuve. Parce que ça permet d'avoir le comportement adéquat face à l'épreuve. Celui qui se dit « je suis éprouvé », ça fait partie du sens de mon existence sur la terre, il accepte l'épreuve. Et il l'endure avec patience. Il prie Dieu, il l'appelle au secours pour lui alléger la peine qui accompagne l'épreuve. Et tout ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle adorer Dieu. Ça s'appelle compter sur lui. Et donc, tout cela, c'est l'un alimente l'autre. Les difficultés de la vie, les coups durs alimentent la foi. Parce qu'on a recours à Dieu, qui a la solution à tout. Et à force d'avoir recours à lui, eh bien, on s'enrichit de lui, on se rapproche de lui et on se protège de l'insouciance, de l'égarement et de al-rafla. Allah Azza wa Jal, s'il envoie des messagers, s'il envoie des signaux d'alarme, etc., c'est pour réveiller qui al-rafiloun dont il parle avec force de détail. Dans le Coran, al-rafiloun, ce sont les gens qui se laissent vivre, qui se la coulent douce, qui sont là, qui mangent, qui boivent, qui ne se retiennent absolument pas de ce qu'ils ont envie de faire, que les conséquences soient bonnes ou mauvaises. Insouciant. Dieu ne connaît pas. Non, j'ai envie de faire, je suis libre. Alors, la liberté doit être conjuguée à la foi pour qu'elle soit une liberté productive. Quand elle n'est pas conjuguée à la foi, elle peut être destructrice. Pour soi, pour son prochain, pour la nature. Oui, je suis libre de couper des arbres. Oui, je suis libre de polluer la mer. Oui, alors, j'ai envie, qui peut m'en empêcher? Donc attention, quand on parle de liberté, il faut être conscient que cette liberté, déjà, c'est un don de Dieu. Il nous a donné le libre arbitre. Les animaux ne sont pas aussi libres que nous. Mais cette libre arbitre est une épée à double tranchant. Attention. Voilà. Nous aurons des conséquences à rendre, même sur l'emploi de la liberté que Dieu nous a octroyée. Alors, rejeter donc l'idée de la vie après la mort prive notre existence de toute signification. Prive la religion de toute signification et même prive Dieu et ses attributs de toute signification. Que veut dire que Dieu nous assigne, que voudrait dire que Dieu nous expose ses lois, et puis que finalement, ses valeurs, pour finalement ne pas en tenir compte. Alors il nous dit ne nuisez pas à votre prochain, aimez-le comme vous-même, etc. Et puis finalement, il mettrait le bien et le mal sur le même plan. Il jugerait de la même façon le juste et l'injuste, le criminel et le bon. Mais comment serait ce Dieu qui parle, qui indique la bonne voie pour finalement trahir lui-même ses propres enseignements? Ce serait un Dieu non crédible. Ce serait un Dieu injuste. Alors moi, je prends sur moi pour ne pas rendre œil pour œil, dent pour dent, la loi de Moïse qui a été tempérée par l'islam, le christianisme aussi, mais l'islam aussi. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Hein? Donc ce verset dit dans Sourate Ash-Shura, vous avez le droit de rendre un mal pour un mal, mais celui qui pardonne et répare, alors qu'il attende sa récompense auprès de Dieu, qu'il compte très fort là-dessus, parce que voilà, Dieu le récompensera au centuple. Et c'est ça le sob, le fait de prendre sur soi. Donc celui qui m'a causé un tort, celui qui je sais pas, qui a tué mon mari ou mon enfant, ou qui a volé, brûlé ma maison, volé ma voiture, Dieu lui ferait grâce, alors que moi, j'ai pris sur moi, en comptant sur la récompense de mon sabre, hein, de ma patience, le fait d'être resté pacifique, zen, et non, mon comportement n'aurait plus aucune valeur. À quoi cela servirait-il alors d'obéir à Dieu et de faire œuvre de sobre? À quoi servirait la charité si celui qui dépense sans compter, sans jamais penser à ceux qui ont faim, doivent être jugés comme ceux qui se privent, hein? وَيُؤْثِرُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, que dit le Coran. Ça, c'est leur prochain avant eux-mêmes, même quand ils sont dans la privation. Donc regardez les nobles sentiments qu'essaye de réveiller Allah Ta'ala en nous, car ils sont en nous. L'homme est naturellement bon. Hein, il y a tous ces encouragements donc à être bon, et finalement, oh bah tant pis, hein, celui qui Allah est miséricordieux et donc il gracie, il est clément avec. Non, ce n'est pas ce que dit l'islam et ce ne serait pas logique que Dieu soit ainsi. Dieu est très sévère envers ceux qui ont semé quoi? Le désordre sur la terre. Tout ce qui est mal, tout ce qui nuit, que ce soit à l'être humain ou à l'environnement, ou même à la pensée humaine, tout ce qui nuit est appelé désordre. Voilà, ce qu'on appelle ça en islam, ismun jami'. Il y a des locutions comme ça, il y a des termes qui sont très parlants, qui veulent tout dire. Tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui empêche l'être humain de grandir, d'être digne, de garder toute la noblesse d'être humain avec laquelle Dieu l'a fait, tout ça s'appelle al-fasad. Et donc, les injustes sont ceux qui yufsiduna fil ard, ceux qui répandent le désordre sur la terre. Alors, croire en la vie après la mort donne un sens au message de Dieu. Pourquoi? Parce que l'idée de la croyance en la vie après la mort oriente la conception de la vie. Et c'est pour ça que la conduite de l'athée n'est pas comme la conduite du croyant. Le croyant, il raisonne en dehors du cadre terrestre. Alors que l'athée, il va se restreindre au cadre terrestre. Donc il ne va faire que ce qui lui profite en ce monde. Alors que le croyant est merveilleux. Il est capable de se surpasser. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit, il voit très loin. Il sort de ce cadre. Il pense à son profit dans les deux vies, ici-bas et dans l'au-delà. Il veut le succès, pas seulement sur la terre, maintenant, tout de suite, mais aussi dans l'au-delà. Alors, maintenant, que dit l'islam à propos de la résurrection des âmes? Alors, j'ai mis des âmes, mais on va voir maintenant. Est-ce qu'on ressuscite uniquement par son âme et son corps? Donc, beaucoup d'incrédules, beaucoup de mécréants, beaucoup de non-croyants mettent en doute l'existence de la vie après la mort, et ce n'est pas nouveau. Hein. Cela a existé de tout temps. Un verset de Sourate Yassine nous l'exprime de façon très jolie. Donc, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. L'homme est ingrat, il a oublié d'où il vient. Hein, il n'était rien du tout dans le ventre de sa mère, et puis un beau jour, voilà, il est grand, fort, costaud, il voit, il entend, il est capable de faire tout un tas de choses, alors qu'il n'était rien au départ. Hein, d'où lui vient tout ça? Donc, il a oublié sa propre provenance. Et donc, il devient rebelle vis-à-vis de celui-même qui l'a fait beau, hein, bien construit, et il dit qui créera, qui fera revivre les âmes, les os, les ossements, après qu'ils aient été réduits en poussière. Voilà. Et Allah répond, on verra ça tout à l'heure, celui qui a créé ses ossements une première fois est capable de leur redonner la vie une deuxième fois. Et le premier khalq, il est beaucoup plus difficile que le deuxième. Quand on a fait quelque chose pour la première fois, c'est là qu'est la difficulté. Mais une fois qu'on l'a fait, on sait très bien le refaire. Alors, à tous les incrédules de tous les temps, Dieu donne des exemples dans le Coran. Des exemples de quoi? De résurrection sur la terre maintenant. Avant l'Akhira, avant l'Apocalypse, avant la fin du monde. Hein? Dans Sourate al-Baqara, il n'y a pas moins de 5 récits sur des gens que Dieu a ressuscités. Là, en ce monde. Alors, notez la progression dans le Coran des chapitres. Sourate al-Baqara est le premier après l'ouverture, enfin la deuxième, hein, après Al-Fatiha. Et on prend connaissance de cette sourate en nous imprégnant, hein, fortement de cette idée de vie après la mort. Parce que c'est l'essentiel. Parce qu'on ne peut pas construire le bien, les bonnes actions, notre fait sur le droit chemin, l'affirmissement de nos pas sur le droit chemin, sans connaître d'abord l'ossature de la religion. Le socle commun à toutes les religions est le canevas essentiel pour pouvoir après mettre dans les cellules de ce canevas. Et la croyance en la vie après la mort fait partie de cette ossature. Donc parmi les récits de Sourate al-Baqara, le premier exemple c'est celui du peuple de Moussa, les Bani Israël. Je vous lis alors. Et quand vous avez dit, donc c'est Dieu qui s'appelle, adresse directement dans le Coran aux enfants d'Israël en disant « Ya Bani Israël » plus loin, hein, il s'adresse directement. « Quand vous avez dit « Ô Moussa, Moïse, nous ne te croirons point tant que nous ne verrons pas réellement Dieu. » Un grand cri vous décima alors que vous regardiez. Ensuite, après avoir connu la mort, nous vous avons ressuscité. Peut-être seriez-vous reconnaissants. Donc voilà une première résurrection. Dieu ressuscite les compagnons de Moïse. Hein, et quel cadeau il leur a fait! Parce qu'ils n'étaient pas si bons croyants que ça. Ils doutaient de l'existence de Dieu. Nous ne croirons pas tant que tu ne nous montreras pas Dieu, tant qu'on ne le verra pas avec nos yeux. Mais quelle toupet, mais quelle irrévérence vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, Dieu leur fait l'honneur donc de les ressusciter. Après ça, normalement, on ne devrait plus mécroire, non? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu d'autres épisodes comme ça où ils retombent dans la mécréance. Un autre récit, C'est le récit qui donne son nom à Sourate al-Baqara, la vache ou la génisse. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Moussa? Il y a eu un meurtre. Et les Bani Israël ont caché, ont couvert les meurtriers qui, d'après ce qu'on comprend de la Sourate, étaient plusieurs, pas seulement un seul. Et Allah Azza wa Jal dit: Dieu a mis au grand jour ce que vous cachiez, c'est-à-dire ce meurtre. Rappelez-vous, lorsque vous avez tué une personne, puis que vous avez cherché à dissimuler le meurtre, Dieu a mis au grand jour ce que vous cachiez. Nous dîmes, donc c'est Allah qui dit au Bani Israël: frappez le défunt d'un morceau de la vache. Donc en somme, Moïse dit, Dieu vous dit, trouvez une vache, tu es là, et avec un morceau de la vache, vous allez frapper le mort, et en fait, il dénoncera son meurtrier. Et c'est là aussi qu'il y a tout cet épisode où les Bani Israël disent, oui, mais quelle vache, toutes les vaches se ressemblent, malaounouha, etc. Et Dieu répond à chaque fois, il est très patient, jaune, lumineux, etc. Et à chaque fois, une autre répond, en fait, ils n'ont pas envie d'obéir à Dieu. Hein, il tourne autour du pot pour ne pas obéir. Et le mort ressuscite. Et la parole lui est donnée. Et c'est ainsi qu'il dénonce son meurtrier. Troisième exemple. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Alors, le récit des gens qui sont sortis de leur maison en fuyant la mort. On n'a pas plus de détails sur ce récit, mais voilà, ils sont sortis par milliers. Kharajou min diyarihim wa hum ulouf. Ils sont sortis par milliers fuyant la mort, hadar al-maut, et Allah les a fait mourir, puis les a ressuscités. Et il dit, n'as-tu pas vu ceux qui sortaient de leur demeure fuyant la mort par milliers? Dieu les a fait mourir, ensuite il les ressuscita. Et Dieu est plein de grâce pour les gens, mais un grand nombre d'entre eux n'est pas reconnaissant. Regardez, à chaque fois, Allah Azza wa Jal, il montre qu'il est très déçu du comportement des êtres humains, mais il continue à les appeler en disant la'allakum tashkurun, peut-être puissiez-vous être reconnaissant, la'allakum ta'qilun, puissiez-vous raisonner avec l'intelligence que je vous ai donnée. Un autre exemple, c'est le récit de celui qui passa près d'une cité détruite et qui s'est demandé comment est-ce que Allah pouvait faire revivre les morts. Et donc Dieu le raconte. L'exemple de celui qui passa près d'une ville morte et qui dit « Comment Dieu pourrait-il la faire revivre ?» Dieu le fit mourir pendant une durée de 100 ans, puis le ressuscita. Il lui dit « Combien de temps es-tu resté ainsi ?» Il répondit « Un ou quelques jours. » Regardez ce que ce sommeil a représenté. Il est resté 100 ans endormi, enfin mort. Et il lui a semblé qu'il n'avait pas vécu plus d'un jour ou à peine un peu plus. Et Dieu dit « Non, tu es resté ainsi 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson. Et regarde ton âne. » Donc tout avait changé. « Nous ferons de toi un signe pour les gens. Regarde les eaux, comment nous les rassemblons. Puis les revêtons de chair. » Lorsqu'il comprit, cet homme dit « Je sais que Dieu a le pouvoir sur toute chose. » Donc voilà, il y a eu des miracles comme ça de résurrection. Un cinquième exemple, c'est le récit de Ibrahim, alayhi salam, Abraham, qui demanda à Dieu comment il ressuscitait les morts. Quand Ibrahim dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Dieu dit « Ne crois-tu donc pas ?» Ibrahim répondit « Si, mais c'est pour que mon cœur s'apaise. » Dieu dit « Prends quatre oiseaux, donc en quatre oiseaux, tue-les, déchiquette-les, et mets un morceau sur les quatre directions, sur les montagnes, dans les quatre directions, puis appelle-les et ils viendront à toi. Et sache que Dieu est puissant et sage. » Et bien sûr, nous connaissons les miracles opérés par Dieu sur la main de Jésus qui ressuscitait les morts. Et ceci est indiqué dans le Coran. Alors Dieu s'adresse aussi aux sceptiques en faisant appel à leur raison. Il dit dans Sourate Ar-Rum, « Wa huwa alladhi » alors je traduis, « Comme nous avons commencé la première création, nous la recommencerons. » C'est une promesse. Donc Dieu promet la résurrection de tout ce qu'il a créé, qui nous incombe, et certainement nous l'accomplirons. Il dit aussi, parmi ces signes, tu vois la terre humble, puis quand nous faisons descendre la pluie sur celle-ci, elle devient féconde et la végétation y pousse. Celui qui l'a ressuscité est le même qui ressuscitera les morts. Et il a le pouvoir pour toutes choses. Un dernier verset. Donc, nous avons aussi fait revivre un village mort ainsi, et la résurrection, Kadalik al-Khuruj. Voilà, donc il y a de nombreux versets qui parlent de ce Ba'ath, de la résurrection. Alors, résurrection du corps, seul, du corps ou des âmes, nous allons voir ça maintenant. Au moment où l'âme quitte le corps, au moment de l'agonie, de la mort, l'âme est séparée du corps, mais provisoirement. Nous l'avons déjà vu l'an dernier, provisoirement, hein, à la mort de l'homme. Il y a des anges qui viennent recueillir l'âme. Alors, on a parlé de l'âme pieuse avec lesquelles les anges ascendent à travers les cieux, où ils reçoivent à chaque ciel un bon accueil, où on appelle cette âme par le plus beau nom qu'on lui donnait sur la terre, et on l'élève ainsi, et Allah ordonne qu'on inscrive le nom de cette bonne âme, fi'illiyin. Donc, il y a plusieurs hypothèses sur le sens de ce mot. Hein, le plus haut des cieux, le plus beau des paradis, l'endroit le plus haut auprès d'Allah, etc. Et ensuite, l'âme redescend, mais elle n'est pas remise tout de suite dans le corps. Un hadith qui nous explique qu'elle voit le lavage du corps, qu'elle voit les gens qui portent le corps vers le cimetière, et que la bonne âme est pressée. Hein, adjil, adjil, donc presse-toi, pressez-vous. Si vous saviez ce qui m'attend, vous courriez, vous iriez plus vite. Et la mauvaise âme qui dit doucement, doucement, si vous saviez ce qui m'attend, vous ne seriez pas aussi pressé. Et seulement après, une fois que l'enterrement, la mise en terre a été faite, l'âme redescend et est réintégrée dans le corps avant, quoi, le questionnement par les anges. Donc on a parlé de cet interrogatoire qui a lieu dans la tombe, interrogatoire sur Dieu, sur la religion, sur le prophète, auquel les croyants répondront en toute facilité et auquel, eh bien, ceux qui ne croyaient pas sur la terre ne sauront pas quoi répondre. Alors, on a vu aussi que la vie dans la tombe est une vie heureuse, dans un espace large, clair, illuminé, avec pour acte, avec pour compagnon les actes personnifiés, hein, qui seront les amis de la tombe. Donc tout ça nous prouve qu'il y a une vie, même dans l'espace intermédiaire, entre la mort et la résurrection. Donc cette vie, on l'appelle le barzakh, la vie intermédiaire. Le barzakh veut dire l'isthme, c'est-à-dire quelque chose qui est entre deux choses. Et on ne sait pas grand-chose sur ce barzakh, sauf que ce sont des préliminaires heureux avant le paradis, et ce sont des préliminaires de tourment pour les suppliciés qui iront en enfer, que Dieu nous en préserve. Donc voilà. Il y a détachement de l'âme par rapport au corps à un moment donné, et ensuite l'âme revient, voit le corps, et ensuite l'âme est réintégrée au corps. Alors dans la tombe maintenant, dans ce monde intermédiaire du barzakh, les théologiens se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui ressentait le bonheur, le plaisir, la douleur, parce qu'on y parle de douleur. Alors là, il y a divergence. Hein. Par exemple, je donne quelques avis théologiques. Il y a Ibn Hazm qui dit que c'est seulement l'âme qui ressent, hein, le bonheur, le malheur, la douleur, etc. Il dit que dans le bazar, le corps ne ressent plus rien. Hein, même si il continue à y avoir un lien, mais ténu, hein, faible, fragile, entre l'âme et le corps. C'est son avis. Il y a Ibn al-Qayyim qui dit tout à fait le contraire. Il dit, c'est l'âme et le corps. L'âme est réintégrée dans le corps comme elle était réintégrée dans la vie, sauf que l'espace du barzakh n'obéit plus aux mêmes lois physiques que les lois physiques de la terre. Hein? Donc on ne peut pas se prononcer sur la manière dont on voit, dont on ressent, dont on... Alors, dans son argumentaire, il y a des choses très intéressantes, et, enfin, auxquelles j'adhère tout à fait. Il dit, par exemple, dans le hadith du prophète, Azzaselem, qui parle de cette âme qui est réintégrée dans le corps, il dit, les anges le font s'asseoir. Yujlisanihi, hein, les deux anges font asseoir le mort. Pourquoi le ferait-il asseoir si c'est uniquement l'âme qui ressent, qui parle, qui voit, qui... voilà. Il y a aussi Adab al-Qabr, la tombe qui se resserre, qui est étroite sur l'âme des futurs suppliciés, enfin des injustes de la terre, Dhalimoun. Le prophète, as-salam, dit « Hatta tartalifa adla'u » jusqu'à ce que ses côtes se brisent. Alors, on parle ainsi d'un corps. Voici ce qui fait dire cela à Ibn al-Qayyim. Alors, nous avons également d'autres mashayikhs, d'autres savants qui concilient ces deux hypothèses, qui disent l'âme est dans le corps, d'accord, donc c'est l'âme et le corps qui ressentent, qui voient, etc., mais absolument pas comme sur la terre. Ils parlent de ce lien fragile et leur argument, c'est un hadith qui parle de cette âme qui se promène dans les arbres du paradis. C'est-à-dire que la liberté de l'âme, quand elle est liée au corps dans le barzakh, elle est décuplée, elle est beaucoup plus grande que la liberté d'une âme qui est vraiment enfermée dans un corps et qui n'en bouge pas, hein, sur la terre. Hein, on parle là d'âme des bienheureux qui s'élève et qui se promène, qui ressent les délices du paradis. Wallahu a'lam. Tout ceci fait partie du domaine du raïb, du mystère. Et donc, nous ne pouvons en dire que ce que Dieu et son prophète ont bien voulu nous en apprendre. Alors, à noter que dans les religions précédentes, cette notion de barzakh est présente aussi. Dans l'Ancien Testament, il est question de Sheol, hein, qui est le séjour des morts, mais provisoire, qui correspond à ce barzakh dont nous parlons. Alors, sous l'influence grecque, on a parlé beaucoup plus par la suite de l'Hadès, hein, qui est un terme grec, où Jésus descend notamment, selon la Bible, pour prêcher à l'humanité pécheresse morte avant le Christ. Il est question dans la Bible d'enfer, de paradis, hein, mais il est question de livres qui seront ouverts, de livres des actes. Il est question du châtiment du diable. Vous savez que le diable sera jugé et qu'il aura même, il y a même sa plaidoirie, hein, qui est présentée dans le Coran, hein, quand il dira, moi je n'ai fait que les tenter et ce sont eux qui m'ont suivi. C'est-à-dire, voilà, j'ai rien fait. Moi, c'est sur ta permission, Seigneur, que je les ai tentés. Alors, le problème avec le christianisme, notamment le christianisme, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur l'interprétation de tout ça. Hein, alors, il y a très peu de choses, très très peu de choses. Hein, il y a même des théologiens qui disent « nous ne savons rien », mis à part que Celui qui aime Dieu sera sauvé et sera dans sa proximité. Voilà, wallahu a'lam. Donc, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre d'où viennent exactement les divergences. Je ne connais pas en détail l'argumentaire des différentes écoles. Mais les écoles, non seulement les écoles de pensée, d'interprétation, non seulement sont nombreuses. Enfin voilà, il faudrait que je me renseigne plus parce que. Enfin, en plus, il y a les témoins de Jéhovah qui disent encore une autre chose. Même si les témoins de Jéhovah ne sont sortis de l'Église, ne sont pas reconnus par l'Église, il y a les adventistes. Donc il y a énormément de courants et les avis sont très, très, très divers et très contraires, hein, très dissemblables les uns par rapport aux autres. Alors je reviens donc, à la version coranique, à la version musulmane. Pardon. Alors que se passe-t-il exactement après la mort? La première étape, donc c'est al-ba'th, la résurrection, au son du corps, hein, nouveau son du corps, puisqu'il y a un premier son souffle dans la trompette de Israfil, qui fera que tout ce qui vit sur terre tombera raide, raide mort. Et donc, à ce son du corps, les gens sortiront des tombes. Ils sortiront des tombes, je vous lis le verset traduit. Et quand il sera soufflé dans la trompette, ils se précipiteront tous de leur tombe vers leur Seigneur en s'écriant « Malheur à nous, qui nous a donc arrachés à notre sommeil ?» Oui, il croyait qu'il dormirait. « Man ba'athana min marqadina »« Hada ma wa'ada ar-Rahman » Donc voilà ce que vous a promis le miséricordieux. Le tout miséricorde. Les prophètes étaient donc sincères. Dans un autre verset, le 53, un seul autre cri suffira et aussitôt tous les hommes seront astreints à comparaître devant nous. Devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne subira d'injustice. Chacun de vous sera rétribué selon les œuvres qu'il aura accomplies sur la terre. Donc, résurrection, il y a énormément de hadiths qui expliquent tout ça. Alors, on nous décrit l'état des ressuscités. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ Donc, ils sortiront de l'Ajdath, des tombes, comme assommés. سِرَاعًا Et... ils se précipiteront en s'éparpillant dans toutes les directions. Voilà, où sommes-nous? Où devons-nous aller? Qu'est-ce qui nous attend? Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ils auront les regards craintifs. Ils seront dhillah, comme on appelle, humiliés. Ils se sentiront humiliés. Parce qu'on leur avait prédit tout ça, mais ils n'y ont pas cru. Cela est le jour qui leur avait été promis. Donc, ce jour est une promesse de Dieu. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu trahit sa promesse? Non. Ensuite, le hadith nous parle d'un da'i, d'un ange, un héros, qui est chargé d'appeler les gens et de les guider. Donc il appellera les gens à le suivre. Et tout cela se passera sur Ardul Mahshar. Ardul Mahshar est une plateforme où seront rassemblées toutes les créatures. Toutes les créatures, c'est-à-dire parmi les hommes, parmi les démons, et parmi les animaux. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paradis et d'enfer pour les animaux, mais Dieu est tellement juste qu'il y aura une justice aussi à rendre entre les animaux eux-mêmes. hein, la bête à cornes qui a frappé une bête sans cornes, et bien Dieu lui dira maintenant, tu ne t'allions, tu lui rends l'appareil. Donc ce Dai les mènera vers cette terre où tout est plat, il n'y aura pas plus de montagne, il n'y aura plus de mer, il n'y aura plus. C'est une terre qui se situe, on ne sait où, personne ne peut dire où elle se situera, mais voilà. Sur la terre, nous sommes différents par notre physique, par notre démarche, par notre race, par notre couleur de peau. Eh bien, n'oubliez pas que dans le monde de l'au-delà, la valeur déterminante, principale, qu'est-ce que c'est ? La piété, la conduite sur la terre. C'est ça qui va différencier les êtres humains les uns par rapport aux autres. Et donc il y a une description très vivante de la physionomie des ressuscités. Dieu parle de couleur de peau, de couleur, mais de couleur liée à leurs actes antécédents à leur mort. Des visages illuminés, des visages assombris. Hein? Donc la lumière sur le visage, ça sera ça la couleur des ethnies de l'au-delà. Aujourd'hui, il y a des blancs, des jaunes, des rouges. Là-bas, il y aura des lumineux, des moins lumineux, des sombres, des plus sombres, des ténébreux, des... Voilà. Dans le moyen de locomotion, nous marchons fermement sur les jambes que notre Dieu qui nous aide nous a données. Eh bien, dans l'au-delà, le moyen de locomotion sera aussi lié à la conduite sur la terre. Il y en aura qui seront traînés sur leur visage. Il y en aura qui auront les yeux révulsés vers l'arrière, qui ne pourront... Voilà, c'est-à-dire, on ne peut pas s'imaginer ces choses-là. Mais ce sont des données qui sont auxquelles nous devons, en tant que croyants, accorder le minimum de crédit, parce que elles ne viennent pas de n'importe qui. Elles sont énoncées soit par Dieu, soit par l'émissaire de Dieu, alayhi salatu wa sallam. Alors le cosmos aussi. Après l'Apocalypse, il n'y aura plus ce cosmos que nous connaissons. Mais il y aura quand même quelques éléments du cosmos, bien sûr, qui ne seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Dieu parle sur la plateforme du rassemblement d'un soleil qui sera rapproché des têtes. Mais ce ne sera certainement pas le soleil que nous connaissons aujourd'hui. Alors il sera rapproché des têtes et les gens auront très très chaud. Ils baigneront dans leur sueur. Et là aussi, aujourd'hui, tu fais une petite gymnastique douce, tu transpires un petit peu. Si tu fais du sport 10 minutes, tu transpires. Si tu fais du sport 2 heures, tu transpires plus. Donc c'est le temps qui définit l'abondance de la sueur, c'est le degré de température, c'est le degré de stress. La seule valeur là-bas seront les actes, ça sera la seule monnaie, le seul thermomètre, la seule échelle. Donc, les gens seront trempés dans leur sueur proportionnellement à leur péché. Et le hadith du prophète dit, certains en auront jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'au cou et d'autres seront complètement immergés dans leur sueur. Et il n'y aura qu'une seule ombre, ce sera l'ombre de Dieu. Et le hadith du prophète, enfin les hadiths, reprennent une phrase qui est très jolie, qui en parlant de ce jour du Ba'th, ce jour du... Alors, il y a le Ba'th, la sortie du tombe, et ensuite il y aura le Hashr. Là, nous sommes au Hashr, c'est l'épisode du rassemblement. Les gens sont rassemblés sur la plateforme et attendent le jugement. Et bien sûr, Ard al-Mahshar, sur la terre du rassemblement, il n'y a pas d'autre ombre que celle de Dieu. Yaouma la dhilla illa dhillu. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, celle de notre Seigneur. Et alors, tout le monde souffrira de la chaleur? Non. Il y en aura qui seront abrités à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Donc, c'est cette catégorie notamment. Mais les théologiens disent que ce ne sont que des exemples. Il y a bien d'autres catégories de bienheureux qui seront abrités à l'ombre de Dieu ce jour-là. Donc, dans le hadith le plus connu, un gouvernant juste, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Alors, pourquoi la jeunesse? Eh oui, parce que jeunesse rime souvent avec insouciance. Comme disait Sayyidina Ali, qui a laissé un héritage spirituel magnifique à sa descendance, il disait à son fils, donc dans ses écrits qu'on lit aujourd'hui, hein, « Je sais aujourd'hui que tu es comme un cheval fou. » Oui, quand on est un cheval fou, Dieu, la place de Dieu se rétrécit dans les esprits et dans les cœurs. Mais celui qui sait se rappeler de Dieu et qui a su lui obéir méritera ce jour-là d'être abrité à son ombre. Il y a l'attachement au lieu de culte, l'attachement aux maisons de Dieu, hein, qui fera mériter ça. Il y a l'amour en Dieu, hein, pas l'amour pour des intérêts bassement terrestres. Donc un amour inconditionnel. Je t'aime parce que Dieu me demande de t'aimer. Et parce qu'il est valeureux d'aimer son prochain pour plaire à Dieu et uniquement pour ça. Il y a la résistance à la tentation de l'adultère. Ce hadith parle d'une femme belle, riche et qui c'est elle qui fait la proposition et qui est séductrice. Mais celui qui sait faire comme Sayyidina Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait Sayyidina Yusuf? Il s'est retrouvé exactement dans cette situation. Il a fui vers Dieu, intérieurement, la fuite vers Dieu. Hein, devant le danger, il fuit vers Dieu. Il y a la charité, la sadaqa, mais une charité secrète, une charité où on n'est pas là à compter ses sous. Je donne. Voilà. Je donne ce que Dieu veut bien que je donne. Donc, celui qui donne, sans que sa main droite ne sache ce qu'a, sans que sa main gauche ne sache ce qu'a donné sa main droite. Et une larme versée dans le souvenir de Dieu, hein, celui qui a le cœur plein de foi, il a cette sensibilité que n'ont pas d'autres cœurs. Le cœur qui est plein de foi, le cœur attaché à Dieu, est un cœur qui frémit au souvenir de Dieu, est un cœur qui s'émeut à la pensée de Dieu et qui peut même pleurer à la pensée de Dieu. Eh bien, celui qui a pleuré, les théologiens disent, serait-ce une fois? Serait-ce une fois? Ça vous est arrivé une fois de pleurer comme ça, rien parce que vous sentez l'amour de Dieu très fort, vous sentez... Eh bien, celui qui réussit à le faire une fois, Inch'Allah sera sauvé ce jour-là de la morsure du soleil. Il y a énormément de choses qui sont conseillées par Salaf al-Salih, nos pieux prédécesseurs qui nous ont laissé un héritage magnifique. Hein, et ils disent, si tu pleures une seule fois pour l'amour de Dieu, essuie tes larmes sur tout ce que tu peux, car le feu ne peut pas toucher ce qui a été baigné par les larmes versées pour Dieu. Et alors, vous savez, dans la prière, si Dieu nous demande de nous prosterner, de mettre le front à terre, c'est pour briser tout sentiment d'orgueil, tout sentiment de suffisance. Celui qui met le front à terre, normalement, et qui implore Dieu, devrait ressentir au moins une fois de temps en temps ce khushu', cet émoi, hein, ce sentiment humble d'amour de Dieu. Et donc, Salaf al-Salih, les sages disent, quand tu es le front par terre et que tu ressens cette émotion, ne te relève pas tout de suite. C'est un moment qui est si fugitif dans la vie qu'il faut le goûter pleinement, mais reste sur ton tapis. Et si tu peux pleurer, Mais tu es parmi, Inch'Allah, les bienheureux le jour où nous serons rassemblés pour le jugement. Alors, bien sûr, on imagine tout le monde sur cette plateforme avec une cohorte d'anges pour gardiens, pour gardes. Et Dieu décrit cette station en disant Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens se tiendront debout pour Allah, dans l'attente d'Allah Azza wa Jal. Et on amènera alors l'enfer, Jahannam. Alors ce hadith, il est saisissant de vérité par le souci du détail qu'il y a dans ces paroles. On décrit un enfer qui est traîné par 70 000 cordages. Chaque cordage tiré par 70 000 anges. On décrit un enfer coquetant, un enfer rugissant dans le Coran aussi. Un enfer qui souffle son haleine brûlante qu'on appelle zéphyr. Alors, à se demander si le mot zéphyr ne vient pas de là, le vent, hein, le zéphyr. Donc un enfer menaçant, duquel sortiront des flammes qui prendront un aspect presque humain, hein, des flammes à deux yeux, deux oreilles, une langue, hein, et à qui Dieu donnera la parole. Et il dira... Donc, voilà, je suis chargée de trois types de gens. J'ai été créée pour trois catégories d'individus. Liman ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Premier, celui qui a donné à Dieu un égal. Celui qui a adoré avec Dieu un autre Dieu. Même si c'est un Dieu moindre par rapport à ce Dieu. La foi musulmane est absolument unicitaire. Wa bi kulli jabbarin anid, et pour tout tyran entêté qui malgré les conseils qu'on lui donne reste dans son comportement abject. Donc wa bil musawwirin, alors là il y a tout un pouls, l'encre a beaucoup coulé au sujet de ce terme. Musawwirin, ce sont qui les faiseurs d'images. Alors, les théologiens sont tous unanimes sur le fait que ces images dont on parle sont les fausses divinités, les faux dieux, c'est-à-dire les idoles. Quand on dit une image, c'est-à-dire une représentation. En arabe, sura, c'est une représentation qui est imagée, c'est-à-dire... représenter un homme ou un animal et l'adorer comme on adorerait Dieu. Alors sur cette plateforme, les gens sont absolument silencieux, tout le monde a peur. Et pourtant, ils sont là, en famille. Hein, la mère sera avec son enfant, mais chacun ne s'occupera que de sa propre personne. Et donc ce silence-là, hein, « فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا » Hem, c'est-à-dire le silence complet. Il n'y aura que les messagers que l'on entendra murmurer parce qu'ils prieront pour leur peuple en disant Allahumma sallim, sallim, mon Dieu, sauve-les. Et la terreur sera à son comble. Hein, ce sont des scènes effrayantes qui sont décrites par ce que dit le Coran, à tel point que la mère abandonnera le petit qu'elle allait, que l'homme fuira son frère, sa mère, hein, tout ça est dans le Coran, et son épouse, et ses enfants, hein, tout ça est dans le Coran, le jour où la mère qui allait, son nouveau-né, ce ne serait pas comme si elle ne l'avait pas enfanté. Alors, sauf bien sûr, les promis au paradis qui seront rassurés par les anges. Rappelons, il faut le dire ça. Il faut le dire, il ne faut pas oublier de le dire. Que dès le moment de l'agonie, hein, dès le moment où voilà, on se retrouve un pied dans le bazar, et au moment de l'agonie, l'homme n'est plus tellement présent. En théologie, on parle beaucoup de la mort du prophète, la mort des sahaba, etc. Alors, ils sont là, puis ils sont plus là. Ils entendent, et puis ils n'entendent plus. Ils se mettent à parler tout seuls, mais avec qui? Donc, ils ont un pied dans l'autre monde. Mais les anges sont là, dès ce moment-là, et tout le temps, durant toutes les étapes qui suivent, à rassurer les promis au paradis, Inch'Allah. Hein, ce verset que je vous ai récité plusieurs fois. Donc ils leur disent « Nulle crainte sur vous aujourd'hui et nul malheur ne vous atteindra. » Les anges se descendront sur eux en leur disant « N'ayez pas peur !»« Wa la tahzanu !»« Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun !» Et recevez la bonne nouvelle d'un paradis qui vous a été promis. Voilà, donc beaucoup de versets. « Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi » Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, wa sahibatihi wa bani, son épouse, ses enfants. À chacun d'entre eux ce jour-là, un souci qui occupera son esprit. Chacun se dira, alors voilà, nous avons tous des choses à nous reprocher. Et chacun sera là en train de se dire, oh, mais cet argent, oh, est-ce que je l'ai gagné de façon licite ou pas? Ah, mais ce frère que j'ai conseillé tel jour, est-ce que ce conseil que je lui ai donné était bon ou est-ce que ça l'a égaré encore plus? Ben voilà, chacun aura un souci qui occupera tout son esprit. Alors cette citation durera très longtemps, une éternité, disent les théologiens, par rapport au temps que... Alors, j'ai pas dit qu'un jour dans l'au-delà vaut 50 000 jours de ce que nous comptons sur la terre. Et donc, comme l'attente en elle-même sera une souffrance, les gens auront recours aux messagers. Ils iront voir d'abord le père de l'humanité, Adam alayhi salam, et lui demanderont d'aller intercéder auprès de Dieu pour qu'il commence le jugement. Pourvu que la souffrance de l'attente prenne fin. Donc voilà, ils seront même prêts à dire, allez, tant pis, même si je vais en enfer, il faut que ça commence. Et donc cette angoisse intenable et qui dure, Allah Azza wa Jal la décrit aussi par... des mots très très parlants, hein. Il dit les cœurs seront prêts à exploser tellement ils seront serrés. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Vous savez quand vous avez le cœur qui monte là, c'est ce que dit, hein, vous avez cette sensation d'oppression. Voici ce que dit Allah dans ce verset du Coran: le cœur sera dans les gorges, hein, donc les gens étoufferont à force d'avoir peur. Et et ils diront donc à Adam, tu es le père de l'humanité, Dieu t'a fait de tes mains, il a ordonné aux anges de te prosterner, va dire à Dieu, intercède en notre faveur pour que Dieu commence le jugement. Que dira Adam? Dieu m'a interdit du fruit de l'arbre, je lui ai désobéi. Merci, merci, idhabou ila ghayri. Mais moi-même, il y a quelque chose qui me préoccupe. J'ai désobéi à Dieu. Donc lui aussi dira, nafsi, nafsi, laissez-moi me soucier de mon souci. Allez voir un autre que moi. Je ne suis pas digne d'aller parler à Dieu. J'ai péché alors que Dieu lui a pardonné. Ils iront voir Noé, Noé alayhi salam, en lui disant, tu es le premier messager après le père de l'humanité, premier messager aux hommes de la terre. Va demander à Dieu. Que dira Noé? Il dira, j'ai appelé le malheur sur mon peuple. Qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Nuh? Rabbi, la tadar ala al-arbi min al-kafirina dayara. Mon Dieu ne laisse sur la terre aucun kafir, aucun mécréant qui circule. Et qu'est-ce qu'il a fait, Allah Ta'ala? Il leur a envoyé le déluge. Donc il se sentira responsable de ce déluge et de la mort de tous ces hommes, même si ces hommes étaient des rebelles à Dieu. Et il dira aussi « Nafsi, nafsi, idhabu ila ghayri ». Donc, moi, allez voir un autre que moi. Les gens iront voir Ibrahim. Tu es le prophète d'Allah et tu es son khalil, tu es son ami intime. va intercéder en notre faveur pour que il dira, j'ai dit 3 mensonges. J'ai dit, Inni Saqim, je suis malade, le jour où il a détruit les idoles. Donc il n'a pas accompagné les gens pour fêter ce qu'il fêtait ce jour-là, parce qu'il avait un plan. pardon. Ensuite, une fois qu'il a abattu les idoles, il a dit Fa'alahum kabirhum hada, c'est cette grande idole qui a détruit les autres. Demandez-lui si elle est capable de parler. En fait, c'était un savant stratagème, c'était super intelligent comme ruse, hein, mais c'était un mensonge pour lui. Donc. Le troisième, son épouse Sarah, quand ils ont émigré, dit-on, en Égypte la première fois, le roi d'Égypte était un tyran qui prenait toutes les belles femmes qui se présentaient, qui franchissaient les portes de la ville. Et quand on lui a demandé qui était cette femme, il a dit « c'est ma sœur Inna Urti », alors que c'était son épouse. « Nafsi, nafsi, idhabu ila ghayri » J'ai menti 3 fois, allez voir un autre que moi. Ils iront voir Moussa alayhi salam. Tu es le messager d'Allah et tu es son kalim, kalimullah. Dieu t'a parlé sans intermédiaire. Il leur a dit, j'ai tué une vie, hein, sans droit. Rappelez-vous, il a voulu rendre justice à un hébreu, un croyant, et il a tué celui qui le malmenait, sans faire exprès, bien sûr. Nafsi, nafsi, idhabu ila ghayri. Les gens iront voir Isa alayhi salam. Jésus, tu es le messager de Dieu, tu es kalimatuhu allati alqaha, tu es son verbe qu'il a mis dans le sein de Marie, va voir Dieu. Alors lui n'évoquera aucun péché, il dira simplement allez voir Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ils iront voir Mohammed, alayhi salatu wassalam, en lui disant tu es le dernier des messagers. Dieu t'a pardonné. Tes péchés passés et à venir, il t'a pardonné d'avance. Il dira, soit j'irai. Il ira et se prosternera devant le trône. Il louera Dieu comme personne ne l'aura fait. C'est un très très long hadith. Et Dieu lui dira, relève-toi, demande et tu auras sal-ta'ta. Plaide et tu intercéderas. Donc, washfa, tushafa. Et j'intercéderai. Et qu'est-ce qu'il dira ? Ya Rabbi Ummati. Mon Dieu, ma communauté, ma nation, les croyants, les soumis, hein, ceux qui se sont abandonnés en toute confiance à Dieu, qui s'appelle musulman Ummati. Il dira, Mohammed, fais entrer par cette porte du paradis ceux de ta communauté qui ne seront pas jugés. Alors on apprend là, et donc on le sait en islam, il y aura des hommes qui ne subiront pas l'épreuve du jugement qui est en elle-même éprouvante, douloureuse, pénible. Et il reviendra donc annoncer que sa demande a été acceptée. Et bon, il attendra avec les autres que survienne le jugement et tous seront là à scruter le ciel, qui, au bout d'un moment, se fendra en faisant apparaître une cohorte d'anges. Donc, ces anges viendront et cerneront la plateforme. Et cette scène est décrite dans le Coran. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Le jour où le ciel se fendra et des nuées, al-ghamam, terme que l'on retrouve dans la Bible, des nuées d'anges descendront. Alors, Dieu, les gens demanderont, est-ce que Dieu est avec vous ? On leur dira non, mais il arrive, il viendra. Le deuxième ciel se fendra et en sortira le double de ce que contiendra la plateforme, comme créatures et comme anges qui sont déjà descendus du premier ciel. Troisième ciel, de même, etc. Encore le double. Hein. Donc, Dieu, en quelque sorte, dévoilera tout ce ce que cache ce monde invisible, invisible pour nous aujourd'hui, qui abrite les anges. Et donc la garde est renforcée petit à petit, et c'est là que le hadith dit « Et les puissants de jadis ne se sentiront pas plus importants que l'aile d'un moustique. » Eh oui, ceux qui se pavanent aujourd'hui dans des palais avec une garde armée jusqu'aux dents et qui se sentent invincibles et tout-puissants et qui de ce fait se permettent d'écraser ceux qui n'ont rien, eh bien ce jour-là, hein, on leur remettra les pendules à l'heure, hein, comme on dit de façon... Donc, ces rangées successives d'anges viendront jusqu'à ce que viennent les porteurs du trône, Hamalatul Arsh, qui sont donc des anges supérieurs, et qui sont au nombre de 8 le jour de la résurrection, hein, dans Surat al-Haqqa, Yawma idhin, wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum yawma idhin samaniya. Et ce jour-là, porteront le trône 8. On dit que aujourd'hui ils sont 7, wallahu a'lam, et que le jour du jugement ils seront 8. Alors ces nuées d'anges, ce hadith interprète le verset suivant du Coran: wa ja'a rabbuka wal mala'ikatu saffan saffa. Il y a donc wa ja'a rabbuka, ton Seigneur, wal malaku saffan saffa, et les anges viendront par rangées successives. Et il y a une sourate qui s'appelle sourate as-saffat, les rangées en rang. Donc non seulement il y a des anges très nombreux, mais hyper disciplinés. Il y a une discipline chez les anges dont nous devons nous inspirer. Discipline, si nous voulons ressembler aux meilleures créatures après l'homme. Et donc, ils loueront Allah Azza wa Jal, puisque les anges ne cessent de louer Dieu. Alors, on trouve même... Des louanges, mais je ne connais pas l'origine de ces louanges-là. Subhan al-mulk wal-malakut, subhan al-izz wal-jabarut, subhan man yakhluq wa la yamut. Donc, gloire au roi et à son royaume, gloire au puissant et à ses forces, gloire au créateur qui ne meurt pas, qui ne meurt jamais. Donc, après avoir fait installer son trône là où il voudra, Dieu s'adressera aux gens, hein, en leur disant, hein, c'est aussi un hadith du prophète, hommes et démons, je vous ai entendu jusqu'à ce jour. Hein, on est là, demander à Dieu, etc. Donc c'est Dieu qui nous entend pour l'instant. Donc, قَدْ أَنْصَتُ إِلَيْكُمْ مُنْدُ خَلَقْتُكُمْ. À vous de m'écouter aujourd'hui. Et il expose en quelque sorte le protocole du jugement. Il va annoncer ce qui va arriver. Donc vos actes, vos livres vous seront lus. Que celui qui y trouve un bien remercie Dieu et que celui qui y trouve du mal ne s'en prenne qu'à lui-même. Et une partie de sa parole, de son discours aux hommes est donnée dans le Coran. Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan, ne vous ai-je pas prévenu, enfant d'Adam, de ne pas adorer le diable? Innahu lakum aduwwun mubin, il est votre ennemi déclaré. Wa ana a'buduni, mais adorez-moi plutôt. Hadha siratun mustaqim, voici le droit chemin. Voilà. Donc c'est un Dieu qui n'a pas envie de punir. C'est un Dieu déçu qui dit « Mais je vous avais dit, je vous avais prévenu. » Ensuite, il commencera son jugement en commençant par les faibles et les opprimés. Et oui, parce que l'attente du jugement, on a dit, est une torture à elle seule. Et donc, ceux qui n'avaient rien sur la terre seront jugés les premiers et ce n'est que justice. Le roi qui avait tout sera jugé sur tout ce qu'il avait. Comme disent certains machaires pour détendre l'atmosphère. hein, sur un bonbon, sur un bouquet de persil. Tout ce que tu possèdes, tout ce que Dieu t'a fait comme cadeau, petit ou grand, tu seras questionné sur sa provenance et sur la manière dont tu l'as utilisé et sur le sentiment de gratitude qu'il t'a procuré ou non. Tout, tout, tout. Alors ça donne à réfléchir ou pas. Wallahi, ceux qui ont le protocole du jugement en tête et qui y croient ne peuvent pas voler un stylo à leur patron, ne peuvent pas voler une minute de leur temps de travail, sur leur temps de travail, même si cette minute c'est fait pour aller faire la prière. Alors là, hadith du prophète, il y a un hadith qui parle de ça. Même pour aller adorer Dieu, nous n'avons pas le droit de tricher. De partir comme ça, en catimini, se sauver, je ne sais pas, dans un recoin de l'usine pour aller faire sa prière, alors que tu es censé travailler. Ce n'est pas le moment. Et Dieu comprend ton excuse si tu fais ta prière en retard, mais il ne comprendra pas que tu aies volé quelqu'un parce que tu étais payé pour travailler pendant ce quart d'heure ou cette demi-heure. Qu'est-ce qu'on lit dans les livres de théologie sur les choses qui nous sont illicites à la consommation? On lit la chose suivante. On parle de al-ardul marsouba ou al-waqtil marsoub. On ne peut pas jouir de quelque façon que ce soit d'une terre volée, d'une terre qui ne nous appartient pas et sur laquelle on n'a pas la permission d'être, et d'un temps volé. Donc pour faire la prière par exemple, oui c'est bien de faire la prière, bravo, mais tu n'as pas le temps de faire la prière sur une terre, à un endroit que tu as pris de façon illicite, sans droit. Ou si tu t'introduis dans la propriété privée de quelqu'un, tu n'as pas le droit d'être là. Donc ta prière, Dieu ne l'accepte pas, vous vous rendez compte? Il n'y a pas que la prière. Aujourd'hui, les musulmans, ils prennent la surface des choses. Toute chose doit être faite avec honnêteté. Il y a un esprit qui accompagne les devoirs envers Dieu. Dieu ne veut pas de ta prière si tu as lésé quelqu'un en faisant cette prière. Donc je reviens au patron qui compte sur toi pour travailler alors que tu vas te sauver pour prier. Et ça, c'est al-waqt al-marsoub. Tu as volé un temps. Tu as volé du temps. Alors c'est pareil quand on donne un rendez-vous. Alors j'aimerais comprendre pourquoi, j'aime pas généraliser, mais pourquoi ce sont toujours les musulmans qui sont en retard. Vous allez me dire c'est culturel, mais bon, ce qui est mauvais dans la culture, on le rejette normalement. Faire attendre quelqu'un, c'est lui voler de son temps. Rappelez-vous de ce récit, de cette histoire qui est arrivée au prophète al-Sallam. Alors dit-on avant le message, avant que avant l'annonce qu'il est messager de Dieu. Alors, il faisait du commerce. Il avait donné rendez-vous à quelqu'un. Il l'a attendu 3 jours. Il lui a dit, je t'attends là. Il lui a donné rendez-vous 3 jours. Il n'est pas parti. Et au bout de 3 jours, quand son associé s'est rappelé qu'il était en train de l'attendre et qu'il est allé le rejoindre, que lui a dit le prophète? N'importe qui lui aurait mis un poing dans la figure, n'est-ce pas, au bout de 3 jours. Le prophète lui dit, tu m'as bien fatigué. C'est tout ce qu'il a trouvé à lui dire. Donc, la politesse du prophète, son noble caractère. Ce n'est pas pour rien que Aïcha, son épouse, l'a décrit en disant, il est le Coran vivant qui marche sur la terre. Ben oui. Et voilà, donc juste pour dire que les faibles et les opprimés, ceux qui n'ont rien, il commencera par eux. Et ceux qui ont été les bien servis sur la terre seront les derniers. Donc les faibles, les opprimés parmi les croyants, hein, seront les premiers à être jugés. Alors je vais m'arrêter là parce qu'il reste encore un gros paquet que je terminerai la prochaine fois. Ceux qui ont reçu mon mail, donc ont appris que je ne serai pas là au mois de décembre, pas de conférence au mois de décembre, c'est le 28, dimanche 28 décembre, pas de conférence. Donc ça sera au mois de janvier, Inch'Allah, je donne rendez-vous ici à 19h, avec déjà la suite de ce sujet, et puis j'espère le nouveau que j'ai prévu de faire. Barakallahu fikum. إلى هذه الحديث كفاية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين. Oui. Alors, on y reviendra inchallah la prochaine fois, mais il y a par exemple la hadith, je ne vais pas te laisser partir sans répondre à cette question. On parle de Redouane, le gardien du paradis. Redouane, le gardien du paradis qui voit un groupe arriver, donc sortir des tombes et venir vers lui. Et il leur dit, où allez-vous ainsi? Ils disent, au paradis. Il leur dit, ma waqaftum li hisab. Donc, vous n'avez pas attendu pour un quelconque jugement. Vos livres, vous n'avez pas subi l'examen des livres. Vous n'avez pas subi l'examen de la balance. Et vous me dites que vous allez rentrer au paradis. Ils disent, alors ils répondent, n'as-tu pas lu ce qu'a dit Dieu? Ils entreront au paradis, min ghayri hisab, donc sans jugement. Donc nous sommes cela. Et ensuite il leur a dit, c'est Redouane qui leur parle, il leur dit, qu'avez-vous fait? Non, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum min ghayri hisab. Donc les patients, as-sabirun, ceux qui ont enduré les épreuves de la vie avec patience, auront leur salaire sans jugement, sans hisab, sans jugement. Et donc le gardien du paradis leur dit, comment était votre sabr? Décrivez-moi, qu'est-ce qu'il avait de spécial pour que vous évitiez comme ça toutes les peines de ce jour? Et ils diront, alors c'est là qu'ils disent, ils parlent d'éthique en fait, ils vont énumérer un certain nombre de bonnes actions dont nous reviendrons la prochaine fois, Inch'Allah.